Chapitre 20. Il faut tout reprendre de zéro, disait Didi une heure et demie plus tard. Au tribunal, ils avaient remis Tessa au bureau du shérif de Suffolk County. Le procureur allait présenter les éléments à charge, l'avocat indiquerait s'il plaiderait coupable ou non, le montant de la caution serait fixé et un titre de détention préparé par le parquet autorisant le comté à garder Tessa Leoni incarcérée tant que les conditions de sa mise en liberté sous caution ne seraient pas réunies. À ce stade, soit Tessa serait libérée sous caution, soit elle serait transférée à la prison de Suffolk County. Étant donné que le procureur allait soutenir qu'il y avait risque de fuite et donc ne requérir aucune caution, il y avait de fortes chances qu'à l'heure où il parlait, elle soit déjà en route vers la maison d'arrêt pour femmes. Ce qui ne résolvait pas pour autant tous leurs problèmes. Nous avions établi la chronologie en fonction des premières déclarations de Tessa à la police, expliquait maintenant Didi. De retour au commissariat central, elle avait convoqué d'urgence tous les membres de la cellule d'enquête. En nous fondant sur son récit des événements, nous étions partis de l'idée que Brian Darby avait été abattu dimanche matin, après une altercation où il en était venu aux mains. Mais d'après le légiste, le corps de Darby a été congelé avant dimanche matin et très probablement décongelé pour que Tessa nous joue sa grande scène du 2.
Il sait dire combien de temps il est resté congelé ?
Demanda Phil au premier rang. Didi laissa Neil, le troisième membre de l'équipe, répondre à la question, puisque c'était lui qui avait assisté à l'autopsie.
« Sans doute moins de 24 heures, » répondit-il en s'adressant à toute la salle. « Ben dit qu'il a constaté des dommages cellulaires qui correspondent aux effets d'une congélation dans les extrémités, mais pas dans les organes internes. Donc le corps a été mis au froid, mais pas suffisamment longtemps pour geler complètement. Les membres, le visage, les doigts, les orteils, oui. Les profondeurs du buste, non. Donc, il est sans doute resté au froid entre 12 et 24 heures. Ben ne peut fournir qu'une estimation parce que cette durée varie en fonction de la température de la pièce. Ajoutez à ça au moins quelques heures pour que le corps revienne à température ambiante. Il suppose, et je dis bien suppose, que Brian Darby a en fait été tué vendredi soir ou samedi matin.
Donc, reprit Didi en retournant l'attention de la salle vers elle, nous allons devoir de nouveau interroger tous les voisins, amis et parents. Quand a-t-on vu ou entendu Brian Darby pour la dernière fois? Est-ce qu'on part sur vendredi soir ou sur samedi matin?
Il a passé un appel sur son portable vendredi soir,
intervint un autre enquêteur, Jake Owens.
J'ai vu ça en parcourant les relevés hier.
Un appel long? Comme s'il avait parlé avec quelqu'un?
8 ou 9 minutes, donc pas simplement pour laisser un message. Je vais retrouver le numéro et avoir une petite conversation avec le destinataire de l'appel.
Assure-toi que cette personne a bien parlé à Brian, ordonna sèchement Didi, et que ce n'était pas Tessa qui se servait de son téléphone.
Je ne comprends pas.
Phil avait fait toutes les recherches sur les antécédents et à bien des égards, il en savait plus que quiconque sur les détails de cette affaire.
Nous sommes en train de supposer que Tessa a tué son mari, congelé le corps et organisé toute une mise en scène le dimanche matin. Pourquoi ?
Didi haussa les épaules. Bizarrement, elle n'a pas voulu nous le dire.
Pour gagner du temps,
dit Bobby de là où il se trouvait, appuyé contre le mur à l'avant de la salle.
Pas d'autre bonne raison. Elle voulait gagner du temps.
Mais pourquoi ?
Insista Phil.
Très probablement pour s'occuper de sa fille.
La salle resta sans voix. Didi regarda Bobby avec désapprobation. Manifestement, son hypothèse ne lui plaisait pas. Tant pis. À lui, ça ne lui plaisait pas d'avoir appris qu'elle était enceinte de la bouche d'une femme soupçonnée d'assassinat. Peut-être qu'il était vieux jeu, mais ça lui restait en travers de la gorge et il se sentait d'humeur querelleuse.
« Vous pensez qu'elle s'en est pris à sa fille ?»
demanda Phil méfiant. Il avait 4 enfants à la maison.
« Un voisin a vu la Denali de Brian quitter la maison samedi après-midi, » répondit Bobby. Dans un premier temps, nous avons supposé que Brian était au volant. Comme les techniciens de labo pensent qu'un cadavre a été déposé à l'arrière du véhicule, nous avons aussi supposé que Brian avait tué sa belle-fille et qu'il s'était débarrassé des preuves. Sauf que Brian Darby était très certainement mort samedi après-midi. Et que donc, ce n'est pas lui qui a transporté un cadavre.
L'air pincé, Didi approuva sèchement. Je crois que nous devons envisager l'hypothèse que Tessa Leoni ait tué toute sa famille. Dans la mesure où Sophie était à l'école vendredi, je dirais qu'il s'est passé un drame familial soit vendredi soir, avant la patrouille de Tessa, soit samedi matin à son retour. Le corps de Brian a été mis à congeler dans le garage et celui de Sophie emporté dans un lieu inconnu pour y être abandonné.
Tessa a de nouveau pris son service le samedi soir et le dimanche matin, elle nous a servi son numéro.
Elle a tout mis en scène, marmonna Phil. Fait croire que son mari s'en était pris à Sophie, qu'ensuite Brian et elle s'étaient disputés et qu'elle l'avait tué en situation de légitime défense.
Didi hocha la tête, Bobby aussi.
Mais les blessures au visage,
objecta Neil depuis le fond de la salle.
Impossible qu'elle ait pu assurer sa patrouille dans la nuit de samedi à dimanche avec une commotion cérébrale et un visage fracassé. Hier, elle était incapable de tenir debout, encore plus de conduire.
Bien vu, estima Didi. Elle se posta devant le tableau blanc où elle avait écrit « chronologie » et elle ajouta un tiret « blessure de Tessa Leoni, dimanche matin ».
Ces blessures sont forcément récentes. Est-ce qu'un médecin pourrait le confirmer ?
Demanda-t-elle à Neil, ancien ambulancier qui leur servait d'expert médical à demeure.
C'est difficile avec les contusions, on cicatrise tous à des vitesses différentes, mais la gravité des blessures suggère qu'elles sont intervenues tard. Elles ne pouvaient plus être d'une efficacité délirante après avoir pris des coups aussi violents sur le crâne. « Qui l'a tabassé ?»
demanda un autre enquêteur.
« Un complice, » suggéra Phil au premier rang.
Didi approuva. « En plus de bouleverser notre chronologie, cette nouvelle information signifie aussi que nous devons repenser les contours de l'affaire. Si Brian Darby n'a pas battu sa femme, qui l'a fait et pourquoi ?»«
Un amant, » dit posément Bobby.
« C'est l'explication la plus logique. Pourquoi Tessa Leoni a-t-elle tué son mari et sa fille ? Parce qu'elle ne voulait plus d'eux. Pourquoi ne voulait-elle plus d'eux ? Parce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre.
« Tu as eu vent de quelque chose ?» lui demanda Didi. « Une rumeur qui courait dans la caserne, par exemple ?»«
Non. Mais je n'ai pas vraiment mes entrées là-bas. Je suis enquêteur, pas agent en tenue. Il va falloir interroger le lieutenant. »«
Première heure, cet après-midi, » lui assura Didi.
« Je dois dire, » intervint Phil, « que cette théorie cadre mieux avec ce que m'a dit le patron de Darby, Scott Hill. Je lui ai parlé à 11 heures et il m'a juré ses grands dieux que Darby n'avait pas une once de violence en lui. L'équipage est plutôt tendu sur un tanker. Les gens ne dorment pas assez, leur famille leur manque, ils sont sous pression et ils doivent rester sur le pont en permanence. En tant qu'ingénieur, Darby devait régler toutes les crises techniques et apparemment, gros bateau égale grosses avaries. Eau dans le carburant, circuit électrique grillé, logiciel de surveillance détraqué. Et pourtant jamais Hill n'a vu Darby perdre son sang-froid. En fait, plus le problème était grave, plus l'idée de trouver une solution l'excitait. Et il ne peut pas croire qu'un type comme ça battait sa femme en rentrant chez lui.
« Darby était un employé modèle, » résuma Didi.
« Darby était l'ingénieur que tout le monde préférait et apparemment il n'était pas mauvais à Guitar Hero. Ils ont une salle de détente à bord. »
Didi soupira, croisa les bras. Elle jeta un œil vers Bobby, sans tout à fait rencontrer son regard, mais enfin elle regardait plus ou moins dans sa direction.
« Qu'est-ce que tu as appris à la salle de sport ?»«
Brian avait passé les 9 derniers mois à suivre un solide programme d'entraînement pour se muscler. Son coach personnel jure qu'il ne prenait pas de stéroïdes, qu'il n'y mettait que du sang, de la sueur et des larmes. Elle ne l'a jamais entendu dire que du bien de sa femme, mais elle pense que ce n'était pas facile pour lui d'avoir une épouse dans la police. Oh, et ces 3 dernières semaines, depuis qu'il était rentré de son dernier voyage, Darby était clairement lunatique, mais il refusait d'en parler.
Comment ça, lunatique ?
D'après elle, il était plus sombre, soupoulet. Elle l'a interrogé 2 ou 3 fois, en se disant qu'il devait avoir des problèmes chez lui, mais il n'a rien voulu dire. Ce qui faisait de lui un oiseau rare. Apparemment, la plupart des clients s'épanchent sur leurs états d'âme pendant l'entraînement. La salle de gym leur tient lieu de confessionnal.
Didi s'anima. Donc quelque chose préoccupait Darby, mais il refusait d'en parler.
Peut-être qu'il avait découvert que sa femme le trompait,
observa Neil depuis le fond de la salle.
Vous dites que c'était à son retour, autrement dit, il venait de laisser sa femme toute seule pendant 60 jours.
Sur le bateau, en plus de la salle de détente, l'équipage dispose d'une salle informatique, intervint Phil. Je suis en train de préparer le mandat pour obtenir copie de tous les courriels reçus et envoyés par Darby. On trouvera peut-être quelque chose.
Mettons que Tessa ait rencontré un autre homme, raisonna Didi. Qu'elle ait décidé de se débarrasser de son mari. Pourquoi le tuer ? Pourquoi ne pas divorcer ?
La question s'adressait à toute la salle comme un défi.
Assurance vie, proposa l'un.
Pour gagner du temps, dit un autre. Peut-être qu'il avait menacé de refuser le divorce.
Peut-être qu'il savait quelque chose sur elle et menaçait de s'en servir si elle divorçait.
Didi nota chacun des points et parut particulièrement intéressée par le troisième. De son propre aveu, Tessa est une alcoolique qui avait déjà commis un meurtre à l'âge de 16 ans. Si elle est prête à reconnaître ça, qu'est-ce qu'elle pourrait bien vouloir cacher? Elle se retourna vers le groupe.
« Bon. Et pourquoi tu es sa fille? Brian est son beau-père, il ne peut pas en réclamer la garde. C'est une chose de mettre fin à son mariage, mais pourquoi tu es son enfant ?»
La salle fut plus lente à répondre à cette question. Étonnamment, ce fut Phil qui osa enfin une hypothèse.
« Parce que son amant ne voulait pas d'enfant. C'est comme ça que ça se passe, non? Je vous renvoie à l'affaire Diane Downes, etc. Les femmes tuent leurs enfants quand ils deviennent une gêne. Tessa voulait se lancer dans une nouvelle vie, Sophie ne pouvait pas en faire partie, donc Sophie devait mourir. »
Personne n'avait rien à ajouter.
« Il faut qu'on identifie l'amant, »
murmura Bobby.
« Il faut qu'on retrouve le corps de Sophie, » ajouta Didi avec un gros soupir. « Qu'on prouve une bonne fois pour toutes de quoi Tessa Léonie est capable. »
Elle reposa son feutre et regarda le tableau blanc.
« Bon, reprenons. Voilà nos hypothèses. Tessa Léonie aurait tué mari et enfant, sans doute dans la soirée de vendredi ou la matinée de samedi. Elle aurait congelé le corps de son mari dans le garage, elle se serait débarrassée de sa fille pendant le trajet en voiture du samedi après-midi, ensuite elle aurait pris son service, très probablement après avoir mis le corps de son mari à décongeler dans la cuisine, et quand elle serait rentrée chez elle, elle aurait laissé son amant la tabasser avant d'appeler ses collègues. Ça se tiendrait. Maintenant, sortez d'ici et trouvez-moi des faits. Je veux des courriels et des messages téléphoniques entre elle et son amant. Je veux un voisin qui l'aurait vu décharger de la glace ou pelleter de la neige. Je veux savoir exactement où s'est rendue la Denali blanche de Brian Darby le samedi après-midi. Je veux le corps de Sophie et si c'est bien ce qui s'est passé, je veux que Tessa Léonie passe le restant de ses jours derrière des barreaux. Des questions ?
L'alerte enlèvement ? Demanda Phil en se levant.
Elle reste en vigueur jusqu'à ce que nous retrouvions Sophie Léonie d'une manière ou d'une autre.
La cellule d'enquête comprit ce qu'elle voulait dire. Jusqu'à ce qu'il retrouve l'enfant en vie, ou jusqu'à ce qu'il découvre son cadavre. Les enquêteurs quittèrent un à un la pièce. Bientôt, il ne resta plus que Bobby et Didi seuls. Il s'écarta le premier du mur et se dirigea vers la porte.
Bobby ?
Il y avait juste assez de tremblement dans sa voix pour qu'il se retourne.
Je ne l'ai même pas dit à Alex, d'accord ? Je ne l'ai même pas encore dit à Alex.
Pourquoi ?
Parce que...
Tu vas garder le bébé ?
Les yeux de Didi s'agrandirent d'effroi.
Elle montra la porte ouverte avec affolement, alors il la ferma pour lui faire plaisir.
Tu vois, c'est pour ça que je n'en ai rien dit,
éclata-t-elle.
C'est exactement le genre de conversation que je n'avais pas envie d'avoir.
Il resta sans bouger à la regarder. Elle avait une main sur le bas du ventre. Comment lui ? L'ancien tireur d'élite ne l'avait-il pas remarqué, ce geste presque protecteur? Il se sentit ridicule et comprit qu'il n'aurait même pas dû avoir besoin de lui poser la question. Il suffisait de regarder sa façon de se tenir. Elle gardait le bébé. Voilà ce qui la terrifia à ce point. Le commandant Didi Warren allait être maman.
« Ça va aller, » dit-il.
« Oh, mon Dieu !»
Didi. « Tu as toujours réussi tout ce que tu as voulu faire. Pourquoi ce serait différent cette fois-ci ? » ?»«
Oh mon Dieu ! »
répéta-t-elle le regard paniqué. « Tu veux que je t'apporte quelque chose ? De l'eau ? Des cornichons ? Et pourquoi pas des bonbons au gingembre ?» Annabelle ne se nourrissait que de ça. Elle disait que ça calmait ses nausées.
« Des bonbons au gingembre ?»
Didi prit un temps un peu moins affolé, un peu plus curieuse.
« Ah bon ?»
Bobby lui sourit, traversa la pièce, et parce que ça lui semblait naturel, la prit dans ses bras.
« Félicitations !»
lui murmura-t-il à l'oreille.
« Je le pense. Didi, bienvenue dans la plus grande aventure de ta vie.
Tu crois ?»
Les yeux un peu embués, elle se surprit à lui rendre son étreinte.
« Merci, Bobby. »
Il lui donna une tape sur l'épaule, elle posa la tête sur sa poitrine, puis ils se redressèrent tous les deux, se tournèrent vers le tableau blanc et se remirent au travail.